L'USBPA est sur Radio B. Entrez dans les coulisses du club de rugby de Bourg. Bienvenue au cœur des violets. Bonjour à toutes et à tous, Karine Branche, responsable administrative à l'USBPA, est l'invitée de cette nouvelle chronique. Bonjour.
Bonjour.
Première question, la traditionnelle, comment êtes-vous tombée dans le violet ?
Alors, je travaille pour l'USB depuis 2010. Au départ, j'étais avec la régie publicitaire qui s'occupe des sponsoring. Et puis, depuis 3 ans, je me suis retrouvée au sein du staff sportif.
Vous avez eu des expériences dans d'autres clubs ou dans d'autres sports, par exemple ?
Non, pas du tout.
Donc, c'était une première dans ce monde du rugby ?
Oui, parce qu'au départ, c'était un poste plutôt basé sur le commercial. Et du coup, maintenant, c'est vraiment ma première expérience dans le sportif pur.
En quelques mots, on développera juste après. Quelles sont vos missions ?
Alors, je complète le staff sportif, surtout sur la partie administrative.
C'est-à-dire ?
Donc, je m'occupe de tout l'administratif autour du joueur. Donc, ça va du logement, aux arrêts de travail, aux déplacements. Voilà, tout ce qui concerne...
Tout ce qui est à côté du côté sportif.
Oui. Et je m'occupe également de leur reconversion, de leur formation.
Ça, justement, on va en parler tout de suite. Quelle place a la préparation de l'après-rugby dans le quotidien d'un joueur ?
J'essaye d'être à l'écoute le plus possible. C'est vraiment un métier basé sur l'humain. J'essaye d'avoir de l'empathie envers eux, de voir comment ils se sentent et je réponds à leurs besoins. Je suis toujours disponible dans mon bureau pour contribuer à leur bien-être, pour que le joueur se sente bien, qu'il n'ait pas d'autres soucis que voilà, de se concentrer sur son sportif. Moi, je suis là pour l'aider, lui donner un appui pour le reste.
Et pour la reconversion, vous voyez les joueurs régulièrement ?
Oui, alors comment du coup, j'avais fait une formation qui a commencé l'année dernière et je leur fais passer des entretiens. Ça ressemble à un bilan de compétences, mais c'est basé sur les compétences naturelles en fait. Donc je leur pose des petites questions pour essayer de connaître leur personnalité et savoir ce qu'ils savent faire naturellement pour les aiguiller vers des métiers, des thèmes métiers en fait, on va dire.
Est-ce qu'il y a des métiers qui reviennent ou ça peut vraiment passer d'un extrême à un autre ? Il n'y a pas de généralité ?
Non, il n'y a pas de généralité. Il y en a beaucoup qui se sentent partir vers le commercial. Mais l'année dernière, on a un joueur qui a quitté le club. Il a fait une formation en électricité. On avait fait plusieurs entretiens et c'est ce qui semblait lui correspondre le mieux.
En moyenne, vers quel âge les joueurs prennent leur retraite sportive ?
Vers 33-36 ans.
Comme pour tout sportif, arrêter de vivre sa passion peut être difficile à gérer. Qu'est-ce qui est prévu ?
Alors, on essaie justement de travailler en amont, de les préparer à ça, de les préparer avec des formations, voire des bilans de compétences. Donc, du coup, ils ont un planning d'entraînement qui leur permet d'être disponibles l'après-midi pour suivre des formations ou des bilans de compétences, parce que l'extra-sportif est dans notre projet club, c'est l'une des priorités. Et on a même certains joueurs qui font un métier l'après-midi. On a certains joueurs qui travaillent chez Decathlon. Donc c'est quand même assez préparé en amont afin qu'ils ne se retrouvent pas sans rien quand la carrière s'arrête.
Certains ont déjà une activité, vous venez de le dire. D'autres ont des projets. Et il y a ceux qui ne pensent pas encore à l'avenir. Quels sont les profils à l'USBPA ?
Oui, il y a un peu de tout. Il y a des joueurs qui sont plus jeunes aussi, qui n'ont pas trop pensé ou qui n'y pensent pas trop encore, qui sont un peu sur leur petit nuage. Donc on essaye de leur rappeler que c'est aussi important, leur avenir, qu'un jour leur carrière sportive s'arrêtera. Je prends l'exemple d'un jeune joueur qui va préparer des formations, qui va suivre une formation en anglais, en bureautique, qui va s'aiguiller vers comment monter une start-up. Enfin voilà, on essaye vraiment en amont de leur montrer qu'il faut penser à leur avenir professionnel aussi.
Vous leur faites des propositions et eux, ils peuvent aussi faire leurs demandes.
Oui, on travaille avec des organismes de formation et parfois c'est le joueur lui-même qui sait exactement ce qu'il veut faire.
Comment faites-vous des ponts entre le rugby et la vie professionnelle ?
On a un réseau de partenaires, donc c'est vrai que si on veut envoyer des jeunes en stage ou pour qu'ils puissent avoir des exemples, qu'ils puissent être confrontés au monde de l'entreprise, on fait souvent appel à des partenaires.
Est-ce ou pas plus difficile pour un joueur de trouver un travail ?
Je ne pense pas, ils arrivent toujours à rebondir. Il faut savoir quand même qu'un joueur, au cours de sa carrière sportive, se fait énormément de relations. Et que justement, les partenaires, les gens autour du club, ils arrivent toujours à leur proposer quelque chose. Enfin, cette carrière de sportif leur permet d'avoir quand même beaucoup de relations et ils arrivent souvent à rebondir après pour leur projet professionnel.
Au cœur des violets sur Radio B. Alors, parmi une autre de vos missions, il y a l'équipement.
Oui.
C'est-à-dire toutes les tenues portées par les joueurs. Il y a le maillot, mais pas que. Alors, Karine Branche, il y a quoi dans le sac d'un joueur ?
Alors, il y a la dotation du joueur. Donc, c'est-à-dire que le joueur, quand il arrive, quand il commence le début de la saison, il faut qu'il ait un sac avec des affaires d'entraînement, des affaires de sortie, des affaires de représentation en public. Donc, du coup, on travaille là-dessus avec l'équipementier qu'on choisit. C'est un travail de
qui est sur plusieurs mois.
Oui, qui est sur plusieurs mois. Il faut choisir. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un petit groupe de travail avec des joueurs pour qu'ils participent. Voilà, ça leur fait plaisir de voir la qualité des produits, de choisir ce qu'ils aimeraient porter, d'avoir des idées sur ce qui n'allait pas les saisons d'avant, ce qu'ils peuvent améliorer. Donc c'est vrai qu'on leur laisse quand même libre choix au choix des produits. Et après, bon, ben, ça reste une décision des dirigeants de choisir quand même l'équipementier.
Donc le maillot change à chaque saison ?
Oui.
Au niveau d'un petit peu du processus qui revient chaque année, ça prend combien de temps ?
Donc par exemple, là on est au mois de février, on va commencer à penser au design du maillot.
Donc, et ça, c'est qui ?
Alors, en fait, avec l'équipementier...
L'équipementier fait une proposition.
Voilà, on est en partenariat avec un équipementier. L'équipementier a des designers. On va lui dire ce qui est important pour nous, nos critères. Donc, le violet, en priorité, bien évidemment. Par exemple, le coq, qui est important aussi pour nous. Et à partir de là, le designer va nous proposer certains modèles, va nous envoyer plusieurs projets. Et nous, on est un petit groupe de travail, on va choisir, on va aussi donner nos idées et on va décider du design.
Et les joueurs se déplacent aussi ?
Oui,
racontez-nous.
Oui, c'est arrivé qu'on a le... Bon, là, on était 2 ans avec Decathlon. Donc la marque Offload. L'année dernière, on est allé à Lille, au Keep Stadium, leur siège. On a vu comment tout le processus de production du maillot, c'était vraiment intéressant pour
Qu'est-ce
les joueurs.
Qu'est-ce que vous avez appris alors ?
Comment, à partir du modèle décidé, ils allaient créer le maillot, tout le processus de production.
Et des joueurs testent aussi des produits ? Comment ça se passe ?
Oui, on a certains joueurs, donc notamment ceux qui travaillent chez Decathlon, qui sont testeurs, entre guillemets, de produits. Donc souvent, les équipementiers leur envoient un petit pack. Donc ça peut être un casque, des crampons. Et ils le testent et après, ils font des retours. Ce qui est très important aussi pour les équipementiers, pour pouvoir s'améliorer sur les sports collectifs qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ils aiment beaucoup les retours des joueurs sur les produits, sur la qualité des produits, la résistance.
Au niveau de la résistance, c'est important, vu qu'on voit souvent les maillots, les shorts qui sont malmenés.
Oui. C'est vrai que oui, il faut vraiment que le maillot et le short soient résistants.
Parfois, donc, ça craque.
Oui, on a eu un petit peu de casse, oui.
Qu'est-ce que deviennent les maillots, les shorts déchirés ?
Parfois, on les raccommode. on a une petite couturière bien sympa. Sinon, si c'est trop détérioré, ben, ça va à la casse.
Ça représente combien de maillots pour toute l'équipe?
Cette année, en Pro D2, on a plus de 40 joueurs. Donc, c'est vrai que... Il nous faut deux jeux de maillots, le maillot domicile, le maillot extérieur. Donc c'est vrai que c'est plus d'une centaine de maillots par saison.
Avec la montée en Pro D2, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans vos missions ou pas?
Alors la montée en Pro D2 a fait que tout est beaucoup plus structuré. Parce qu'on rentre vraiment dans le monde professionnel, on travaille avec la Ligue. Donc c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus structuré. On est en relation avec des gens de la Ligue. Si on a des questions, on doit vraiment répondre à toutes les règles. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est pas freestyle. Donc, c'est vrai que... Voilà, c'est plus structuré.
Plus structuré. Est-ce que ça a changé quelque chose, par exemple, pour la tenue des joueurs? Est-ce que vous avez dû changer parce qu'il y a des règles à respecter?
Il y avait des règles à respecter, surtout pour les sponsors.
C'est-à-dire?
Voilà, c'est-à-dire que chaque sponsor a des dimensions, on avait des dimensions à respecter, voilà, sur le maillot. C'est tout ce que ça a changé, et qu'il fallait bien sûr le logo Pro D2 sur la manche, mais voilà, surtout les dimensions des publicités à respecter sur le maillot.
Et par rapport, en quelques mots, sur la reconversion des joueurs, est-ce que ça change quelque chose quand on accompagne des joueurs en fédéral 1 et qu'ensuite on accompagne des joueurs en Pro D2, ou le projet reste le même?
Non, le projet reste le même, et puis c'est toujours aussi important aux yeux du club d'aider le joueur.
Karine Branche, merci.
Merci à vous.
Vous êtes responsable administrative à l'USBPA. Retrouvez Au cœur des violets tous les mois sur Radio B et à tout moment sur radio-b.fr. Restez à l'écoute du 90 FM, gagnez vos places pour voir l'équipe pro à Verchères et suivez toutes les rencontres en direct sur nos ondes. Riding on the wall.